pas habitué à ça. Daniel Bégin, mon nom, je suis tout simplement un membre de l'Église réformée baptiste de la capitale. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ancien, je ne suis pas diacre, rien de tout ça. Je ne suis pas théologien non plus, je n'ai pas de prétention. J'ai juste fait un peu d'enseignement. Ça fait presque 40 ans maintenant que mon épouse et moi sommes au Seigneur. On a un petit peu d'expérience avec la vie d'Église. On a étudié au séminaire à Toronto, Toronto Baptist Seminary, comme notre frère Luc et notre sœur Suzanne qui sont là. D'ailleurs, je suis content d'être là ce matin parce que, bon, on entend parler de vous à Québec de temps à autre. Entre autres, quand le pasteur Perron, que vous connaissez bien, dirige le culte à Québec et nous dit « Bon matin », comme il l'a dit souvent. Moi qui est traducteur, j'aime pas trop ça parce que c'est un anglicisme de « good morning », là, mais en tout cas, il nous dit ça. Et bienvenue à l'Église réformée baptiste de la Trinité. Là, on dit « la capitale ». Il dit « Pardon, de la capitale. Oh, oh, qu'est-ce que j'ai dit? » Soit de deux choses l'une. Ou bien il vous porte très charmant dans son cœur, ou bien il commence à prendre de l'âge un petit peu. Je suis pas mal certain que c'est les deux. Et il vous a, bien sûr, très charmant dans son cœur, et il prend de l'âge aussi. Mais je ne suis seulement que de 5 ou 6 ans derrière, ça fait qu'on prend tous de l'âge. Pendant que je vous parle comme ça, vous pouvez tourner peut-être dans l'Évangile de Luc, chapitre 11, ça va être notre texte d'aujourd'hui. Je suis aussi content d'être là avec mon épouse parce qu'on a l'occasion cet après-midi, j'allais dire ce matin, mais cet après-midi, de rencontrer pour une première fois depuis 32 ans notre frère Luc et Suzanne qui sont avec vous depuis quelques mois. Alors, ça se peut qu'on reste après le culte pour jaser. On est en retard dans les nouvelles, pas mal. Je vais sortir mes notes, ça va m'aider. Je peux me servir de ça, oui. Est-ce que j'ai une limite de temps, Christian?
Non.
Non?
50
minutes?
Max.
OK. Bon, j'ai le temps de vous de me présenter un petit peu plus d'abord. Alors, ma première formation, ça a été en physiothérapie. J'ai étudié à l'Université de Montréal ici. Je suis un petit gars de Saint-Lambert, de l'autre côté du fleuve. Et peu de temps après ma formation, j'avais étudié dans ma classe, dans ma cohorte, il y avait un type de Victoriaville, et lui était venu en chef de l'Hôtel Dieu d'Orthabasca. Ça doit te faire drôle, Luc, d'entendre parler de Victoriaville, à Montréal, comme ça. Et il y a un poste qui s'est ouvert, ils m'ont invité à venir, et donc j'ai travaillé là-bas une dizaine d'années. Mon épouse, qui a fait une formation en réadaptation aussi, a eu un poste à l'hôpital, grande bénédiction. On a connu le Seigneur là-bas en 84, dans le temps du réveil, un grand réveil qu'il y a eu au Québec. Et on s'est joint à notre première église, qui était une petite église qui se réunissait dans une résidence à Arthabasca. Arthabasca, c'est la ville jumelle avec Victoriaville. Maintenant, c'est tout jumelé ensemble. Et c'est là que Luc et Suzanne se sont pointés à un moment donné et on a fait connaissance. Luc et Suzanne avaient leur formation au séminaire déjà et ils ont été vraiment des piliers pour nous, des mentors, je dirais aussi. On les a appréciés beaucoup. Mais là, ça a été peu de temps après notre tour d'aller au séminaire. Alors, tous les deux, on est allés, on a fait une formation là-bas à Toronto. Et c'est là qu'on s'est perdu de vue. Je pense que Luc et Suzanne sont déménagés dans le coin de Châteauguay. Puis nous, après la formation, on est montés à Québec. On s'est joints à l'église du pasteur Perron. Et j'ai travaillé en physiothérapie, donc un petit peu après la formation au séminaire, mais je me suis orienté non pas vers le ministère pastoral, mais le ministère de l'Éducation. Donc, j'ai fait une autre formation à l'Université du Québec pour avoir la pédagogie, et j'ai travaillé dans une école secondaire protestante francophone à Québec pendant 7 ans. Alors, c'est là que j'ai pris pas mal d'expérience en enseignement. Et L'école a fermé, éventuellement. Le Parti québécois était au pouvoir. Ils ont fait toutes les commissions scolaires linguistiques. Alors, les commissions scolaires protestantes n'existaient plus. Notre école a fermé. Elle n'a pas voulu investir dans le fait de devenir une école privée. Alors, moi, j'ai quitté l'enseignement. L'enseignement secondaire, 7 ans, moi, j'en avais assez, je vous dirais aussi. Et j'avais un fils qui a fait une formation assez poussée en guitare classique. J'ai voulu le suivre là-dedans, alors j'ai fait une formation en lutherie. J'ai travaillé par la suite à l'école même de lutherie au cégep Limoilou pendant un autre 7 ans. Et je suis un gars qui change souvent, ça a l'air. Par la suite, j'ai voulu faire de la traduction. Je suis allé faire un certificat à l'Université du Québec encore en traduction. Et j'ai fait de la traduction à temps partiel depuis ce moment-là, anglais-français, français-anglais. Alors voilà, c'est un petit peu mon parcours. Et je suis quand même heureux d'être ici ce matin pour essayer de vous partager ma petite compréhension de ce chapitre-là dans Luc 11. Alors, on va en faire la lecture. Mais je vous dis tout de suite en commençant, c'est que, bon, dans ce passage-là, Jésus présente le Notre Père à ses disciples. Il leur présente aussi une parabole. Et la parabole est assez difficile à traduire. Puis il y a un mot qui nous donne vraiment le sens de la parabole qui est souvent mal traduit dans nos traductions. Alors, je vais me permettre de vous lire le mot en grec qui est là. Puis, ça va nous laisser un petit suspense. On va essayer de clarifier ce qui veut dire ce mot-là pour avoir vraiment le message crucial de la parabole que Jésus leur a donné. Alors, le mot grec, c'est « anaideia » au verset 8, je pense. J'aime beaucoup la façon de Christian... Ah, pour lire les Écritures, c'est vraiment posé, lent, facile à comprendre. Je vais essayer de faire aussi bien. En passant, avant de lire, quelle bénédiction que l'amplificateur acoustique que vous avez ici. C'est vraiment encourageant de chanter. J'étais tantôt en arrière, avant que ça commence, il y avait un petit groupe qui chantait ici. J'ai dit, waouh! Quelle sonorité, c'est extraordinaire. On n'a pas ça à Québec, c'est vraiment... Vous êtes choyés, je ne sais pas si vous en rendez compte, là, mais on chante, puis ça, hein, ça porte. C'est extraordinaire. Vraiment, toute une bénédiction. Alors, Luc 11, versets 1 à 13. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, « enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son anaideia et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Vous savez, quand vous êtes enseignant au secondaire, puis qu'il y a un étudiant qui semble intéressé dans votre classe, c'est toute une bénédiction. C'est de l'or en or. Ça vaut presque le salaire qu'on vous paie. Ici, Jésus a un disciple qui l'a entendu parler au loin. Jésus avait souvent la tendance à se retirer à l'écart, seul. Les disciples savaient probablement qu'il priait, mais ils ne savaient pas trop comment il s'y prenait. Alors, il y en a un qui ose, puis qui pose la question, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste enseignait ses disciples à prier. » Alors, voilà, Jésus se retrouve devant un étudiant intéressé. Alors, je pense qu'il reconnaît la situation, n'est-ce pas, et qu'il saisit l'occasion pour donner vraiment un enseignement fondamental, de base et important à ses disciples qui sont là et qui lui posent cette question. Qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va leur enseigner la prière modèle du Notre Père. Ça va être je ne sais pas s'il y a des gens ici qui prennent des notes, mais ça va être notre premier point. Donc, la prière modèle du Notre Père. Deuxièmement, une parabole. Et troisièmement, un encouragement. Les derniers versets qu'on a lus tantôt. Donc, prière modèle, une parabole et un encouragement, nos trois points cet après-midi. Je dis du Notre Père une prière modèle. Je pense qu'on n'a peut-être pas besoin d'insister longtemps là-dessus. Ce n'est pas une prière qui est là pour qu'on la récite. Rapidement, il y a plusieurs raisons pour ça. C'est que quand Jésus la présente deux fois, ici dans Luc, mais aussi dans Matthieu, il s'empresse de dire, juste avant de donner le Notre Père, qu'il ne faut pas s'imaginer qu'à force de parole, on va être exaucé, n'est-ce pas? Donc, les prières répétitives comme ça, ce n'est pas quelque chose qu'on voit dans la Bible ou dans le Nouveau Testament. Ensuite, Jésus lui-même ne la récite pas, parce que quand vous lisez, vous avez peut-être remarqué en lisant dans Luc, il y a des lignes très, très connues de la présentation dans Matthieu qui ne sont pas dans Luc. Fait que s'il récite, là, c'est pas pareil. Il y a cinq requêtes ici dans Luc, il y en a sept dans Matthieu. Le choix des mots n'est pas tout à fait pareil, donc c'est pas récité. Et d'autant plus que c'est pas la prière de Jésus, ça, ici. Lui, c'est pas des mots qui... Il priait pas Notre Père, là. Il en faisait une présentation, il en faisait un enseignement. Donc, c'est pas sa prière non plus. L'autre chose, c'est que vous lisez le Nouveau Testament, personne ne prie le Notre Père, et personne ne recommande de réciter le Notre Père non plus dans le Nouveau Testament. Et finalement, peut-être raison pratique, c'est que on sait très bien que si on répète des choses apprises par cœur, on finit par prononcer des mots, puis on ne sait plus ce que ça veut dire. Il faut faire attention, d'ailleurs, avec nos chants. Quand ça fait 40 ans que vous êtes dans l'Église, vous chantez les mêmes chants, à un moment donné, on les chante, on chante l'air, mais on ne pense plus aux mots. Il faut faire attention, il faut penser aux mots, hein, pour que notre adoration vraiment soit dirigée vers le Seigneur. Donc, ce n'est pas une prière à répéter, c'est un modèle de prière. Je vais avoir assez d'eau pour finir. Nouveau Testament, comme vous le savez, nous enseigne de prier pour toutes sortes de choses, comme par exemple prier pour nos autorités, prier les uns pour les autres, pour avoir plus de patience, plus de sagesse, plus d'amour, mais sans mettre de côté ces choses-là, le Notre Père va s'attaquer plutôt aux choses vraiment fondamentales, des requêtes vraiment fondamentales. Alors, j'ai divisé le Notre Père, on va faire juste un survol ici, hein, juste pour voir quelle est la direction que nous donne le Notre Père. Alors, premièrement, c'est une prière pour l'accomplissement du grand dessein éternel de Dieu. L'accomplissement du grand dessein éternel de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, d'abord, la première ligne donne le ton immédiatement. Que ton nom soit sanctifié. Alors, d'abord, le nom prend lieu et place de la personne. Ça désigne la personne de Dieu, son être, son essence. Et le Seigneur dit que ton nom ou que la personne de Dieu soit sanctifié. Sanctifié qui veut dire mettre à part. Hein? Que Dieu soit vraiment élevé, magnifié, exalté, célébré comme étant celui qui est au-dessus de tout. Donc, l'autorité suprême, celui qui est souverain sur toute chose. Que ton nom soit sanctifié. Mais le verbe ici est à la voix passive, que ton nom soit sanctifié. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le sanctifie. Qui est-ce qui va le sanctifier, vous pensez? Moi, je connais trois catégories d'êtres. Alors, il y a les anges déchus. Je pense qu'il n'y a pas d'espoir pour eux. Il y a les anges au ciel. Je pense qu'ils le font déjà parce qu'ils ne seraient pas en présence de Dieu au ciel. Et ensuite, il y a nous ici, sur terre. Nous qui connaissons le Seigneur, dont le cœur a été changé, qui sommes en nouveauté de vie et qui le reconnaissons justement comme étant notre souverain maître, mais à tous les autres aussi qu'on doit aller chercher. Alors, que ton nom soit sanctifié par cette race humaine qui vit sur terre. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le pratico-pratique? Ben, c'est de lui donner la première place dans nos vies. Donner la première place à notre relation avec lui. Donner la première place à notre soumission à sa volonté. Donner la première place à notre obéissance envers lui. Sanctifier le nom de Dieu. Et là, j'en viens à l'accomplissement du dessein de Dieu pour l'humanité. C'est sanctifier le nom de Dieu, c'est exactement le contraire de ce qui s'est passé à la chute. Dieu avait dit à Adam, « Ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Et qu'est-ce qu'Adam a fait? Il a mis de côté ce commandement de Dieu et il l'a fait à sa tête. Pour Dieu, c'était mal que de faire ça. Pour Adam, c'est devenu bien. Ma compréhension de ça, c'est que oui, il est parvenu à la connaissance du bien et du mal, parce que c'est lui maintenant qui allait décider ce qui est bien ou mal. Alors, il est devenu Dieu pour lui-même. Alors, il s'est révolté contre Dieu, il a tassé Dieu de côté, c'est lui qui allait prendre la gouverne de sa vie. Sanctifier le nom de Dieu, c'est exactement le contraire de ça. Alors, le Notre Père, dès la première ligne, nous engage dans une révolution, frères et sœurs, pour réaliser ça. Quand on s'arrête à penser à ça, là, c'est une révolution. Il faut vraiment œuvrer avec lui, bien sûr. Sans lui, on ne ferait rien dans ce sens-là. Mais pour renverser la vapeur, renverser cette révolte qui est dans le cœur de l'homme depuis la chute, pour que ce cœur-là ne soit plus ennemi et révolté, mais adorateur et soumis. Alors, c'est une tâche qui est au-dessus de nos forces, et c'est un combat dans lequel on est inscrit. Et c'est un combat qui doit nécessairement se mener à genoux dans la prière, parce que sans le Seigneur, on n'y arrivera pas. Je donnais c'est un message que j'ai déjà amené à l'église, à la capitale, et je donnais l'illustration suivante. Je ne sais pas si vous allez vous souvenir de ça. Au début de la pandémie, ça commence à dater un petit peu maintenant. C'était en 2020, quelque chose comme ça. Vous vous souvenez quand le premier ministre Legault, flanqué soit du cher Horacio Arruda, puis de temps en autre aussi avec la vice-première ministre, Mme Guilbeault, qui est ma députée d'ailleurs dans notre comté à Québec, La ministre, la chère ministre Guilbeault, à un moment donné, avait bien sûr la galerie des journalistes devant elle. Et vous vous souvenez, au début, hein, le gouvernement essayait de trouver toutes sortes de façons pour éviter que la propagation du coronavirus se fasse, protéger la population, surtout les plus vulnérables. Et bon, il était question de couvre-feu, il y avait des zones du Québec, hein, des jaunes, des rouges, de toutes sortes de couleurs. C'était compliqué, puis les journalistes se faisaient le porte-parole des murmures dans la population. « Ah oui, mais qu'est-ce que vous faites de telle situation, puis de telle autre? » Puis à un moment donné, la ministre Guilbeault, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais elle a dit, « Moi, à un moment donné, là, les Québécois, il faudrait qu'ils soient dociles. » Souvenez-vous de ça? Il faudrait qu'ils soient dociles. Alors là, le murmure était encore plus grand parmi les journalistes, puis je pense qu'elle en a entendu parler pendant 2 semaines. Elle n'a jamais prononcé ce mot-là depuis. Alors, la soumission aux autorités, ce n'est pas quelque chose de populaire. Hein? Encore bien moins la soumission à notre Dieu. Alors, on a du pain sur la planche. On a un combat qui est au-delà de nos forces. Un combat spirituel au-delà de nos forces, c'est bien certain. Deuxième ligne, que ton règne vienne. Bien, ça va dans le même sens, hein? Ce n'est pas la question que Dieu n'est pas au contrôle. On l'a dit tantôt, c'est l'autorité suprême, il est souverain, il dirige toutes choses. C'est le psaume 115 qui nous dit qu'il est assis sur son trône et il fait ce qu'il veut. Hein? Sa volonté décrétive s'accomplit à tout instant. Il n'y a rien qui vient frustrer ça. Il est souverain au-dessus de toute chose. Mais par contre, le monde dans lequel nous vivons est encore dominé par le péché. Je l'ai juste tourné rapidement dans Romains chapitre 1. Je n'ai pas besoin de tourner. Je vais juste faire le constat que Paul fait de notre monde dans ce chapitre-là. Romains chapitre 1. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvés pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Quel portrait de notre humanité! Eh bien, lorsque le règne du Seigneur va venir, tout cela, ça va être du passé. Hein? Il va venir un temps où les brebis et les boucs vont être séparés. Chacun va avoir la rétribution pour ses œuvres accomplies pendant cette vie. Et on va être débarrassé du malin, débarrassé du péché. Et son règne, à ce moment-là, va être complètement établi. Tous les hommes qui vont vivre en présence du Seigneur vont lui être soumis, vont sanctifier le nom de l'Éternel. Que ton règne vienne. Et là, Matthieu ajoute que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Encore là, ici, ce n'est pas la volonté décrétive de Dieu. Dieu fait sur la terre et partout dans l'univers ce qu'il veut en tout temps. Mais c'est la volonté révélée de Dieu dans sa loi, dans ses ordonnances, qui fait l'objet de ce verset-là ici. Que ta volonté, donc, soit faite par les hommes sur la terre, comme elle est faite par les anges au ciel. Alors, ça va dans le même sens. C'est le sens de la soumission, la lutte contre l'emprise du péché sur le cœur de l'homme. Conclusion que j'ai écrite ici, donc, dans une première partie de prière, de notre Père met l'emphase sur le renversement de la chute, le retour à une humanité soumise à son Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Deuxième partie, prière pour les besoins fondamentaux de l'homme. Alors, il y a les besoins naturels, bien sûr, tout ce qui concourt à la vie, et ses besoins spirituels. Alors, donne-nous notre pain quotidien. Alors, le pain, c'était non seulement un aliment de base en Israël, mais c'était aussi un ustensile. Je vous parle de ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais je suis redevable beaucoup à un auteur qui s'appelle Kenneth Bailey. Je ne sais pas si tu connais, Luc. Lui, il a fait justement beaucoup d'exégèse des paraboles dans l'Évangile de Luc. Alors, je vous en reparlerai un petit peu plus longtemps tantôt, mais il nous dit que c'était culturellement répandu que le pain servait pour aller se servir dans un plat commun. Au milieu de la table, on avait un plat commun, et puis on découpait un petit morceau de pain, on allait tremper, puis on mangeait. Alors, c'était un ustensile à usage unique. Comme disent les Anglais, « no double dip ». Tu peux te servir de ton ustensile seulement qu'une fois. Tu prends un autre morceau de pain si tu veux retourner. Alors, c'était un aliment, donc, de base, mais aussi un ustensile. Alors, je vous dis ça parce que, bon, ça tient lieu et place de tout ce qui, finalement, pourrait contribuer à la vie. André me parlait tantôt de l'air, de l'eau. On a besoin de tant de choses. Du soleil, du repos, de l'exercice, de la santé en général, les soins de santé. Alors, tout ça, c'est comme inclus dans « Donne-nous notre pain quotidien ». Alors, la prière du Notre Père tient compte de toutes ces choses-là, ça inclut tout ça. Et prier cette prière-là, c'est d'abord et avant tout reconnaître qu'on est dépendant de Dieu pour toutes ces choses-là. Encore une fois, ce qu'André mentionnait dans sa prière tantôt. Ensuite, l'autre besoin fondamental, l'autre besoin spirituel de l'homme, ben, c'est justement ce qui est contenu dans l'autre ligne, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Ici, ce sont des disciples qui prient le Seigneur, donc ils ont reçu le pardon initial pour leurs péchés, le pardon à salut. Ce n'est pas de ça dont il est question ici. Il est question du péché qu'on appelle rémanent. Hein? Le vieil homme qui est encore là en nous. La nature pécheresse qui est encore là en nous. Nous allons continuer de pécher. Ce péché-là, bien, vient nuire à notre relation avec le Seigneur. Donc, la prière nous rappelle qu'on a besoin non seulement de reconnaître notre péché, mais de demander pardon pour ce péché-là, justement pour garder cette relation intime avec le Seigneur et que nos prières soient entendues. Hein? Et agréé par le Seigneur. Donc, c'est de ça qu'il est question ici. Et la ligne qui suit, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. On a lu dans Marc 11 tantôt que c'est important de pardonner ceux qui nous offensent, parce que ça peut venir faire, et ça va faire obstacle au pardon que Dieu nous donne pour nos offenses à nous. Alors, si quelqu'un nous offense, c'est important de le pardonner. Maintenant, je dis ça, mais c'est pas toujours facile. Hein? Alors, on a lu toutes les atrocités qui meublent notre monde, toutes les querelles, les guerres, les meurtres. Quelqu'un peut nous blesser vraiment, vraiment dans des lieux très, très, très intimes et très sensibles de nos êtres. Gloire à Dieu, ça ne m'est pas arrivé à moi. Je n'ai pas d'exemple pertinent, personnel à vous donner là-dessus, mais je sais que ça existe. Le pardon peut être difficile, mais je pense que, selon les lignes du Notre Père ici, on s'aperçoit que le Seigneur s'attend à ce qu'au moins on soit toujours en processus de pardon envers ceux qui nous offensent, parce que ça va nécessairement nuire à notre relation avec le Seigneur. Donc, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, en tant que chrétiens, on a ce désir-là et on veut pardonner ceux qui nous offensent. Alors, prier cette prière-là, c'est reconnaître son péché d'abord, notre besoin de pardon et désirer une relation saine avec notre Père céleste. Et la dernière ligne ne nous induit pas en tentation. Matthieu ajoute « Mais délivre-nous du malin ». On serait porté à croire ici que Dieu nous tente. Mais un verset dans le Nouveau Testament qui nous dit, en Jacques 1, verset 13, que Dieu ne tente jamais personne. Il peut nous éprouver, hein, pour nous aider à développer de la patience, par exemple, de la persévérance, mais il ne tente jamais personne. Et il ne permet pas non plus que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais il prépare un moyen pour qu'on puisse s'en sortir. C'est ce que la Bible nous dit en 1 Corinthiens 10, verset 13. Alors, ce n'est pas Dieu qui nous tente, c'est le malin qui nous tente, c'est les convoitises qui nous tentent. Et la logique dans ça, c'est que si on a prié pour le pardon de nos péchés, bien, ce serait logique de vouloir ne plus en commettre. Hein? Alors, ce que ça veut dire, c'est que ça ne nous laisse pas succomber à la tentation. Ne nous laisse pas tomber dans ces pièges-là. Parce qu'on veut être pardonné de nos péchés, mais on veut progresser, on veut avoir de la victoire sur certains d'entre ceux-là. Et surtout ceux-là. Et donc, on veut que le Seigneur nous arme contre la tentation. Alors voilà, je vais vous lire un petit peu la conclusion. On a terminé notre survol très superficiel du Notre Père. Mais je vous en donne une petite conclusion que j'ai écrite ici. Je vous la lis parce que je ne serai pas capable de vous donner ça. Aussi bien de vive voix. Alors, Jésus enseigne un modèle de prière qui met l'emphase sur l'accomplissement du grand dessein de Dieu pour l'humanité, c'est-à-dire le renversement de la chute, le retour à une vie humaine en soumission au Créateur. On est loin de voir ça autour de nous, n'est-ce pas? On peut vraiment dire au Seigneur, hâte-toi, hein, que ton règne vienne, hâte-toi de nous donner ce monde-là où tous vont te reconnaître et marcher selon tes voies. Il met l'emphase aussi sur les besoins naturels et spirituels fondamentaux de l'homme. Dans tout cela, la lutte incessante contre le péché prédomine. On voit ça, hein? Dans Notre Père, le péché, la notion du péché, c'est vraiment fondamental dans nos vies. Et lorsqu'on évangélise aussi, il faut parler du péché. Sans ça, on n'a pas besoin d'un sauveur. Alors, pour cela, nous avons un grand combat à livrer. Non pas contre la chair et le sang, mais comme on a lu tantôt, contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons donc un besoin fondamental de prier dans le sens dicté par cette prière afin d'obtenir l'aide divine sans laquelle rien ne pourrait s'accomplir. Le Notre Père nous invite au combat. Nous sommes appelés à combattre le bon combat du Notre Père. Le deuxième point de notre message, c'est la parabole. Alors, je parlais de Kenneth Bailey tantôt. C'est tout un bonhomme. D'abord, il y a eu des parents qui l'ont amené avec eux vivre en Égypte et en Éthiopie. Kenneth Bailey s'est connu comme étant l'auteur qui nous fait voir le Nouveau Testament avec les yeux d'un Moyen-Oriental. Dans ses écrits, il met beaucoup d'emphase sur l'aspect culturel, le contexte culturel dans lequel les écrits ont été donnés. Et ça nous aide, comme j'espère vous allez le voir aujourd'hui, à comprendre vraiment ces écrits-là, entre autres les paraboles. Alors, il a commencé déjà avec ses parents, il a vécu en Égypte, comme je le disais, et en Éthiopie. Et lui-même est devenu un enseignant du Nouveau Testament. Il a passé 40 années de sa vie à étudier et à enseigner les Écritures en Égypte, au Liban, en Palestine, en Israël et sur l'île de Chypre. Vraiment plongé dans le milieu culturel. Et il est devenu aussi un enseignant à Princeton, un séminaire de marque au New Jersey, et aussi à Fuller Seminary, à Los Angeles, en Californie. Et comme je vous disais, il a écrit un livre sur les paraboles de Luc, et il fait des études de mots, il fait l'étude de la structure poétique des paraboles, et il ajoute à ça aussi tout le contexte culturel. Et il met ça ensemble, et il essaie de trouver l'explication ou le sens le plus authentique des paraboles dans l'Évangile de Luc. Alors, on en a une ici, et je suis très redevable pour l'étude qu'il en a faite. Ça ouvre les yeux vraiment. Et la parabole, dans ma Bible à moi, n'a pas de titre. Vous savez comment les éditeurs de nos Bibles mettent des titres, hein? La parabole du semeur, on les nomme selon les personnages. La parabole des 10 vierges, la parabole du publicain et du pharisien, la parabole de la vierge et du juge unique. Ici, je n'avais pas de titre, alors je n'ai inventé un peu pour nous aider à reconnaître les personnages. On a 3 personnages ici. Ma femme me dit souvent ça quand je lui raconte une histoire, elle dit « Donne des noms à tes personnages, je te comprends plus. » Alors, je vais revenir à Luc, ok, on est juste ici. Alors, on a d'abord un visiteur imprévu. Premier personnage. Alors, on imagine un type qui veut aller visiter un ami dans un village. Il a une certaine route à faire. Il veut éviter la chaleur torride du soleil en après-midi. Alors, il part tard, quand le soleil commence à se coucher. Et il arrive tard aussi. Il arrive, comme on nous dit, en plein milieu de la nuit, à l'improviste. Alors, sa caractéristique à lui, c'est que il arrive à l'improviste. C'est un visiteur imprévu, puis il visite un ami. Deuxième personnage, l'hôte dépourvu. Alors, j'essaie de choisir des adjectifs à 3 syllabes finissant par « u ». Visiteur imprévu, l'hôte dépourvu. Alors, l'hôte répond à sa porte en plein milieu de la nuit. Il y a son ami devant lui et il veut le recevoir comme il se doit. Non seulement lui donner un toit, un lit pour dormir, mais aussi il veut le sustenter, il veut l'abreuver. Tu as fait sûrement une grande route, laisse-moi t'accueillir, mon ami. Et là, il ouvre sa dépense, son armoire, son garde-manger, et s'aperçoit que, bon, il y a peut-être quelques olives, parce qu'ils font toutes sortes de réserves, là, mais il n'y avait rien vraiment pour l'accueillir et le recevoir comme il se doit. Alors, il dit, « Garde, installe-toi, défais tes bagages ici, je vais aller en ville chez mon voisin, puis je reviens. » Alors, on voit tout de suite la fibre hospitalière. Ça, c'est vraiment le contexte culturel de cette parabole-là qui est très, très, très important et que Bailey fait ressortir. Je vous lis un petit résumé ici de ce que Bailey dit justement sur... faut que je reste devant la caméra, hein? Sur, justement, cette fibre hospitalière qui anime les Moyens-Orientaux. Alors, Bailey fait ressortir que l'hospitalité est une notion bien ancrée dans les mœurs au Moyen-Orient. Les habitants ont cette fibre dans leur gène. Non seulement l'individu, mais le village en entier se fait une gloire d'être reconnu comme étant accueillant. Au Moyen-Orient, l'hospitalité est une vertu qui se pratique en communauté. L'invité est un invité du village et pas seulement de l'individu. Il est tout à fait normal d'impliquer le village dans l'accueil de l'invité. Si un villageois n'est pas à la hauteur, c'est non seulement sa réputation, mais celle de tout le village qui en souffre. Alors, voyez-vous comment c'est pas des Québécois, là, hein? C'est différent, là. Il y a une fibre hospitalière vraiment, vraiment, vraiment développée, non seulement chez l'individu, mais dans la communauté, et c'est répandu, là. Et la parabole que Jésus donne tourne sur cette notion-là, très exactement. Alors, on a le visiteur imprévu, l'hôte dépourvu, et là, il y a un voisin qui va être consulté. Mais qu'est-ce qu'il fait l'hôte? Alors, il laisse son visiteur en place, il s'en va voir le voisin. Le voisin cherchait un adjectif de 3 syllabes qui finissait par « u » pour le caractériser, je n'ai pas trouvé. Alors, c'est devenu « le voisin au coin de la rue ».« Voisin au coin de la rue ». Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, d'abord, il ne frappe pas, ni à la porte, ni à la fenêtre, mais je pense qu'il va à la fenêtre, il est discret, et il dit « ami, prête-moi 3 pains ». On sait que le voisin lui dit, « Écoute, je suis couché, mes enfants dorment, la porte est barrée. » Donc, les enfants dorment encore. Ils ne réveillent pas. Ils sont discrets. C'est important qu'on note ça dans le texte parce que ça a fait l'objet de toutes sortes de traductions. Puis c'est important ces détails-là ici pour comprendre. Alors, il l'appelle, « Ami, prête-moi 3 pains. » Il est discret. Et il demande peu de choses, 3 pains. Parce que dans la mentalité du Moyen-Orient, il se dit, lui, il m'a donné 3 pains, mais je vais en avoir un autre, puis un autre, puis un autre, puis je vais finir avec un banquet, comprends-tu? Alors, le voisin au coin de la rue, c'est un ami de cet hôte dépourvu qui vient à sa porte. C'est aussi un Moyen-Oriental, il vit dans le même village, il habite au coin de la rue. Et il y a probablement une maison typique aussi, une maison à air ouverte. Hein? Bon, le maître de la maison a son lit, mais tous les autres, dans l'air ouverte, on peut avoir leur matelas, sont étendus là. On les imagine en train de dormir comme ça. Et, bon, on se dit, le fait de se lever, effectivement, allumer sa lampe à l'huile, commencer à se déplacer, lever le verrou de la porte pour débarrer, faire entrer, ça va réveiller la maisonnée. Bon, on comprend un petit peu là, ce qu'il dit. Quoi qu'on peut douter là, du sérieux de ces excuses-là que Jésus met. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus, quand il présente cette parabole-là, la plupart de nos traductions évitent de le faire, mais c'est une question qui couvre les 3 versets. Et c'est une longue question, c'est difficile à phraser pour que ça ait de l'allure en français. Ça fait que quand on lit second, là, vous lirez ça, je ne sais pas quelle version vous avez, mais quand on lit second ici dans la nouvelle édition de Genève, il manque quelque chose, il manque une interrogation. Il ne la fait pas, la question. Mais c'est une question. Et il leur pose, si je la paraphrase, c'est comme ça qu'il présente la parabole. Il dit à ses disciples, « Pouvez-vous vous imaginer avoir un ami qui, lorsque vous lui demandez de vous aider à accueillir un visiteur en contribuant quelques pains, vous refuse son aide en invoquant des excuses telles que « Mes enfants dorment et la porte est barrée ». Pouvez-vous imaginer ça? Hein? Second traduirait ailleurs, par exemple, avec « Que vous ensemble? » Est-ce que ça vous paraît normal? Bien, dans le contexte moyen-oriental, vous êtes capable de répondre avec moi, la réponse serait un non catégorique. « Non, Seigneur, voyons donc! » Bien, c'est une question rhétorique. « Seigneur, ça va bien, c'est un moyen-oriental lui aussi, ça va bien que les gens avaient la fibre hospitalière. » Jamais qu'un voisin répondrait ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la parabole, alors? Ben, Jésus donne la signification dans le verset 8. Et dans le verset 8, tout se joue sur un mot. Il faut savoir qu'est-ce que ce mot-là veut dire. J'espère que vous ne trouverez pas ça trop laborieux, là, mais comme vos Bibles, je m'attends à ce qu'elles vous donnent une traduction qui induit en erreur, selon en tout cas la compréhension que Bailey m'en a donnée. Je vais essayer de travailler avec vous pour vous amener à comprendre la signification du mot. Alors, anaideia. D'abord, je vais lire le verset 8 après la présentation de la question qui présente la parabole. Le Seigneur dit, « Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner les pains parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son anéidéa et lui donnerait tout ce dont il a besoin. » Non seulement les pains, mais tout ce dont il a besoin pour faire vraiment là, un banquet, le recevoir comme il se doit. Alors d'abord, qu'est-ce que le mot « anéidéa » ne veut pas dire? Je vous donne d'emblée que le mot anaidéa est difficile à traduire. Et on cherche à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire dans cette parabole-ci. Et sa signification va tourner autour de la notion de honte. Alors, dans le grec ancien, hein, les philosophes grecs comme Platon, dans la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, dans les écrits contemporains à Jésus comme l'historien Joseph, lorsqu'ils emploient le mot « anaidéa », ça veut toujours dire quelqu'un qui est sans honte, un individu sans honte. Ça veut dire impudent, effronté, insolent, arrogant, sans retenue. En anglais, shameless, sans honte. Avez-vous vu quelqu'un sans honte, vous autres, dans la présentation de la parabole? Hein? Le visiteur, l'hôte dépourvu, il est discret. Il frappe même pas à la porte. Il réveille personne dans la maison. « Ami, prête-moi 3 pains. » Je l'imagine à la fenêtre, hein, près du lit, en essayant de réveiller son voisin. D'ailleurs, si l'autre qui fait la demande avait été vraiment infronté, insolent, la signification de la parabole à ce moment-là, ce serait de nous inciter, nous, lorsqu'on s'adresse, on adresse nos requêtes à Dieu, d'être insolent, arrogant, sans honte. Ça ne tient pas la route. Et si, effectivement, le voisin au coin de la rue finit par donner non seulement les pains, mais tout ce dont il a besoin, c'est pas parce qu'il est arrogant, insolent, hein, effronté, ça ne tient pas la route, cette signification-là. Moi, ici, dans ma Bible, ça traduit par « importunité », quelqu'un qui est importun, qui n'est pas à propos, qui est désagréable. C'est une autre version de la signification « sans honte ». Alors, ça ne tient pas la route. Alors, pour résoudre le problème, ce que l'Église a fait dans l'histoire, c'est qu'ils ont essayé de tourner la signification de « anaidéa », sans honte, hein, le tourner de façon positive. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas de gêne, qui serait un peu arrogant. Donc, c'est devenu insistant. Donc, c'est devenu la parabole qui nous incite, nous, à être insistant, persistant dans la prière. Avez-vous vu quelqu'un dans cette parabole-là qui est insistant? Mais le seul qui aurait pu être insistant, c'est l'autre dépourvu qui vient à la porte de son voisin. Est-ce qu'il était insistant? Non, il a dit, « Ami, prête-moi 3 pains. » Qu'est-ce qu'il y a eu comme réponse? Ah. Hypothétiquement, là, dans la présentation interrogative du Seigneur de la parabole, il a essuyé un non, tout simplement. Puis, je veux dire, il ne s'est rien passé d'autre. Il n'y a pas personne qui était insistant. Là, vous voulez lire une parabole sur l'insistance, allez lire la veuve et le juge unique. Elle est tellement insistante que le juge en a une migraine. Là, c'est la notion d'insistance. Et c'est bon d'avoir de l'insistance dans la prière, mais c'est pas ça qui est enseigné ici, là. Pas du tout. Alors, pour résoudre le problème, on se pose une deuxième question, là. Ça ne veut pas dire sans honte. OK? On a réglé ça. Maintenant, il faut savoir, ça s'applique à qui la caractéristique en question? Est-ce que ça s'applique, à l'autre qui fait la demande, ou si ça s'applique au voisin qui reçoit la demande, le voisin au coin de la rue? C'est lequel, là? Bien, Bailey suggère que c'est le voisin au coin de la rue qui est qualifié ici. Pourquoi? Mais parce que quand Jésus pose la question à ses disciples, est-ce que ça se peut que vous ayez un voisin qui réagisse comme ça, qui refuse d'être hospitalier? Le point de mire, hein, c'est le voisin. Et ça nous amène à focaliser notre attention sur le voisin. Est-ce que c'est normal qu'un voisin réagisse comme ça? Non, Seigneur, c'est pas normal. Alors, on focalise sur le voisin. Puis d'autant plus quand Jésus donne son explication, sa conclusion de la parabole, verset 8, je vous le dis, même s'il ne se lève, il y a 6 lignes ici. Chacune des lignes, c'est le voisin qui est le sujet. En fait, 5 sur 6. La sixième, c'est celle où il y a la caractéristique anaidea. On s'attendrait à ce que ce soit le voisin aussi. Il dit, s'il ne se levait pas, qui est-ce qui ne se lèverait pas? Le voisin. Pour les lui donner, qui donnerait les pains? C'est le voisin. Parce que c'est son ami. À qui l'ami? C'est au voisin. Il se lèverait, le voisin encore une fois, à cause de son anaidea au voisin. Et il lui donnerait tout ce dont il a besoin. C'est le voisin encore une fois. Alors, Bailey dit, je pense que si on s'oriente sur une caractéristique du voisin, on va comprendre notre parabole. Maintenant, c'est quoi le vrai sens du mot « anaidea » Bien, ça joue sur la notion de honte. Non plus sans honte, mais... À quelle place que j'ai écrit ça, là? Juste ici. Avoir le désir d'éviter la honte. Là, je vous fais grâce de toute la discussion et la justification que Bailey en fait. Là. J'en perds mon latin. C'est vraiment technique, ce livre-là. Là. Mais avoir un désir d'éviter la honte. Et là, on comprend la chose. Un désir de préserver sa réputation. Ou encore, le sens de l'honneur. Hein? Le contexte culturel, c'est quoi? Tout le village, tous les individus du village veulent être reconnus comme étant accueillants, hospitaliers. Quelqu'un vient te visiter parce qu'il veut être hospitalier avant un visiteur. Oui! Parce qu'il y a un sens de l'honneur. Il veut éviter la honte. Il veut préserver sa réputation. Il ne veut pas qu'au matin, les gens disent, « Ah, regardez, lui, il n'a pas voulu collaborer. Il y a un visiteur, on n'a pas le droit de le recevoir comme il faut. » Tout le village en souffre. Non, il a son sens de l'honneur. C'est ça le sens de la parabole. Alors, Jésus dit, « Est-ce que vous avez un voisin comme ça? » Non, ça n'existe pas au Moyen-Orient. On est accueillant. On a un sens de l'honneur. Alors, ce que Jésus dit, quand vous priez une prière comme le Notre Père, bien, vous vous adressez à votre Père Céleste, et votre Père Céleste, c'est un Dieu d'honneur. C'est un Dieu qui a un sens de l'honneur. Il veut être reconnu comme étant fidèle. Lorsqu'il fait des promesses, lorsqu'il fait des alliances, il veut être fidèle à ça parce que c'est un Dieu d'honneur. Il a un sens de l'honneur. Il veut protéger sa réputation. Comprenez-vous? Alors, en conclusion, pour cette parabole, en deuxième lieu, donc, Jésus sert à ses disciples une parabole qui enseigne que nous avons un Père céleste qui a le sens de l'honneur. Il est fidèle à ses engagements, à son alliance. Dans la nouvelle alliance, il pourvoit un souverain sacrificateur qui est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Et il est entré avec le sang de l'agneau qui enlève le péché du monde et qui a lui aussi coulé une fois pour toutes. Ce faisant, il nous a ouvert la voie au trône de la grâce de Dieu, fait qui est illustré par le voile du temple à Jérusalem qui a été déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Il nous ouvre le trône de la grâce, il veut être fidèle à cela. J'ai presque fini, mon Christian. Voilà. Alors, non seulement il nous entend lorsque nous prions, mais il répond toujours et en son temps, selon sa grande sagesse. Et il peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et demander. On a un Dieu d'honneur qui accueille nos prières et qui veut y répondre. Rapidement, troisièmement, suite à tout cela, Jésus donne à ses disciples un encouragement. Versets 9 et 10, des versets qui sont bien connus, Jésus emploie des doublons correspondants, puis il les répète. Je pense que c'est une technique pédagogique ici, là. Alors, demander, recevoir, chercher, trouver, frapper, la porte s'ouvre. Il répète ça deux fois. Alors, ça nous amène à penser que chacune de nos prières que Dieu reçoit, il va non seulement l'entendre, mais il va y répondre, et la réponse va être appropriée. Demander, recevoir. Chercher, trouver. Frapper, la porte s'ouvre. C'est correspondant. C'est approprié. Et l'autre chose, et puis ça, c'est bien sûr, quand on prie, ça se peut que la réponse qu'on obtienne soit différente de celle qu'on aurait souhaitée. C'est possible aussi que la réponse soit non, mais dans la sagesse de Dieu, cette réponse-là est appropriée. Et l'autre chose, c'est que la réponse de Dieu aussi sera toujours quelque chose de bon pour nous. Il dit, « Vous qui êtes méchants, qui savez donner des bonnes choses à vos enfants lorsqu'ils vous les demandent, à combien plus forte raison votre Père Céleste, qui est infiniment bon, ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses, comme c'est dit dans le texte équivalent de Matthieu, mais il vous donnera même le don suprême du Saint-Esprit qu'on a tant besoin pour ce combat spirituel qu'on a amené lorsqu'on prie de notre Père. » Donc, il nous donne une réponse appropriée et il nous donne une réponse qui est bonne pour nous. Maintenant, ça peut vous paraître surprenant que Dieu dise ici que à la réponse de la prière de ses disciples, il donne le Saint-Esprit. Est-ce que ce n'est pas ceux qui ont déjà le Saint-Esprit qui peuvent prier le Seigneur? On prie par l'Esprit. Alors, il y a deux façons pour vous aider. Je pense qu'on peut comprendre ça. Mais d'abord, ceux à qui Jésus s'adresse, ce sont des gens qui ont vécu à la période pré-Pentecôte. Donc, Jésus dit, le Saint-Esprit est avec vous, mais il dit dans Jean, il sera en vous. Donc, il y a une différence là. Exactement comment est-ce que ça s'opère, tout ça, je ne sais pas. Mais Jésus voit une différence. Donc, ils vont le recevoir et le Saint-Esprit va venir faire son temple en eux. Mais pour eux, dans la période après Pentecôte et pour nous qui sommes après la Pentecôte, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bien, un ministère encore accru, plus intense dans nos vies, pour être encore plus efficace dans ce combat spirituel qu'on a amené. Alors, frères et sœurs, conclusion, combattons le bon combat. Combattons-le d'abord et avant tout à genoux, tous ensemble. Sanctifions son beau nom. Première ligne du Notre Père. Sanctifions son beau nom pour sa plus grande gloire. Amen.